En partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de chercheurs, les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent.
Le changement climatique.
Il y a une urgence vraiment climatique.
Face au dérèglement climatique.
Un des grands malheurs du monde, le réchauffement climatique.
Directement touché par le réchauffement climatique.
Je vais vous parler à nouveau de réchauffement climatique.
Le dérèglement climatique.
Et tout ça, ça fait peur.
On pourrait croire un film de science-fiction.
Depuis une dizaine d'années, le climat est sur toutes les lèvres. Il est devenu un sujet de préoccupation, de discussion et d'imagination. Le cinéma n'échappe pas à cette règle. On voit depuis les années 2000 un flot de films catastrophes sur le climat. Accompagnés de leur lot d'effets spéciaux et de scénarios rocambolesques, ces films semblent plus ou moins réalistes. D'Interstellar en 2014, en passant par Le jour d'après en 2004 ou La colonie en 2021, et là même, en ce moment, Acide, récemment sorti dans les salles de ciné, le climat passionne les réalisateurs. Mais alors, est-ce que ce que l'on voit est vrai? Le chercheur Olivier Planchon a enquêté.
Gueule de chercheur.
Bonjour Olivier Planchon, vous êtes chargé de recherche en climatologie au CNRS. Vous travaillez sur la circulation atmosphérique locale, ses variations et ses changements. Vous vous intéressez aussi aux risques qui découlent de ce changement climatique. Et là, à Dijon, pour la Nuit européenne des chercheurs 2023, vous donnez une mini-conférence sur l'étude de la façon dont le climat est décrit dans les films catastrophes, dystopiques et post-apocalyptiques. Alors, les films catastrophes, on voit à peu près tout ce que c'est. Les films dystopiques, ben, j'imagine que c'est le contraire d'utopique. Hein. C'est des scénarios, les scénarios de ces films sont souvent des récits fictifs qui se passent dans des sociétés ou un monde plutôt sombre. Oui. Et enfin, les films post-apocalyptiques, ben, on imagine que c'est des films dont l'histoire se déroule après la catastrophe.
Exactement.
Pour ces trois conférences lors de la Nuit européenne des chercheurs, vous avez sélectionné trois films. Et de ces trois films, vous identifierez ce qui est vrai, ce qui est faux ou ce qui est semblable, potentiellement plausible. Alors, déjà, première question, pourquoi avoir accepté cet exercice d'un petit peu de pop culture? Enfin, c'est pas vraiment un travail de labo comme on l'imagine, si?
Il y a des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur ces sujets-là. Hein. D'ailleurs, j'en ai cité quelques-uns dans l'article que je vous ai mis en accès. Moi, par contre, c'est plus pour le fun, disons. Parce que, bon, il y a plusieurs circonstances. Bon, j'aime bien ce genre de film. J'aime aussi les films de science-fiction. L'idée remonte à plusieurs années déjà, quand je travaillais à Rennes. À Nantes, il est organisé tous les deux ans, si je me souviens bien, des conférences en lien avec Jules Verne. Puisque, comme vous le savez peut-être, Jules Verne est né à Nantes. Et donc, ce sont des conférences spécialement consacrées à la science-fiction. Et dans le laboratoire où je travaillais à cette époque, certains collègues de Nantes avaient transmis une annonce de colloque qui pouvait intéresser plusieurs d'entre nous parce que le sujet, c'était la fin du monde. Donc, vous voyez où je veux en venir par rapport au film dont je vais parler bientôt. Et déjà, ça m'avait trotté dans la tête quand j'avais vu cette annonce-là et j'avais déjà proposé quelque chose pour ce colloque que je n'ai pas pu mener à bien pour diverses raisons. Mais ça m'est resté et je m'étais dit, il faut quand même que j'essaie de me remettre dans ce travail-là et que je fasse quelque chose, un article. Et j'ai commencé à écrire quelques pages par rapport au film que j'avais revu à ce moment-là. Et j'ai proposé à certains de mes collègues d'y participer.
Certains de vos collègues, on peut peut-être les citer. Il y a Benjamin Paul.
Alors donc, dans le laboratoire où je travaille, il y a Benjamin Paul qui, lui, travaille aussi sur des problèmes de variabilité climatique, circulation atmosphérique et qui est il est fan de science-fiction et puis spécialement de La Guerre des Étoiles.
Bon, ah oui. c'est loin de la catastrophe climatique, mais quand même.
Mais il aime bien ça, voilà. Et puis alors qui a fait appel à un ami à lui qui gère un ciné-club à Dijon, Brice Lallemand, et qui avait la connaissance de toutes sortes de films y compris des films étrangers non occidentaux, style film japonais dont on n'a pas l'habitude de parler. Parmi les autres collègues, un collègue spécialiste en géomorphologie, risque marin type onde de tempête, tsunami, Pierre Pouzet. Et puis un collègue géomorphologue de Lyon, Nicolas Jacob, qui lui s'intéresse aussi au niveau historique à divers événements, tout type d'événements à lien avec la géomorphologie, glissement de terrain, tremblement de terre, toutes ces choses-là.
Et tous ensemble, vous avez écrit cet article dont vous nous parlez depuis le début de cette interview qui s'appelle « Le climat dans les films, les films catastrophes, dystopiques et post-apocalyptiques ». Là, spécialement pour cette Nuit européenne des chercheurs et cette mini-conférence, vous aborderez trois films que vous avez choisis, ou au moins des extraits de ces films. C'est « Le jour d'après », « La grande inondation » et « Hurricane ». Oui. Pourquoi avoir choisi ces films, outre le fait bien sûr qu'ils abordent des catastrophes climatiques? Pourquoi les avoir choisis?
Les deux organisateurs qui sont venus me voir avant les vacances, on avait discuté de quel film sélectionner, parce qu'en un quart d'heure, 20 minutes, évidemment, je n'allais pas parler des 55 films qui sont traités dans l'article. Et l'idée, ce qu'on avait convenu, c'était de sélectionner deux ou trois films qui portent sur des sujets voisins les uns des autres. Voisins par rapport à la problématique qui est traitée. Donc, dans ces trois films-là, ce qui est commun, ce sont des films qui parlent à un moment ou à un autre, que ce soit le sujet principal ou l'un des sujets, de submersion marine. Ce qui permettra, j'espère, d'abréger un peu le discours en allant de l'un à l'autre de ces films faire la comparaison de la façon dont le phénomène est décrit, montré, analysé d'un film à l'autre.
Olivier Planchon, je vous propose qu'on écoute un extrait et qu'on se retrouve juste après.
Oui. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré.
C'est un extrait du film Le jour d'après, donc, que vous allez présenter à la mini-conférence pour la Nuit européenne des chercheurs. Dans cet extrait du film, donc, d'après Jack Hall, qui est paléoclimatologue, il explique que la catastrophe climatique, une catastrophe climatique va s'annoncer. Son discours paraît très scientifique, mais est-ce qu'il est plausible?
Alors, ce qui est intéressant avec Le jour d'après, c'est que le fond est extrait de théories scientifiques tout à fait sérieuses. Après, comme dans tous les films qui sont décrits, libre au réalisateur de rester près de la réalité scientifique ou alors de s'en écarter plus ou moins librement. dans le cas du jour d'après, effectivement, ce dont il parle là précisément dans son discours, c'est du problème du risque du changement dans la circulation océanique dans l'océan Atlantique Nord. Donc ça, on sait que c'est quelque chose qui varie selon les époques, et ce dont il parle, ça serait d'un ralentissement tel que la circulation d'ouest serait perturbée au point de générer un retour du froid dans l'hémisphère nord. Bon, on sait que ça s'est déjà produit. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le personnage en question dans le film, il est paléoclimatologue. Il faut bien préciser ça, parce que ce dont il parle, ce sont des phénomènes dont on a des références dans le passé retour de froid. Alors évidemment, c'est quelque chose qui, dans les faits, se déroule sur plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et là, dans le film, ça se déroule en quelques jours.
J'allais l'aborder, ça, cette question du temps rapide dans les films. C'est vrai que rapidement, enfin, un film, ça dure quoi ? Une heure et demie, deux heures. C'est... Donc rapidement, on est face tout de suite aux problèmes climatiques. Est-ce que ça, c'est possible ? J'imagine quand même qu'on va revenir.
Moi, j'aime bien quand je revois ce film-là et quand j'en parle à droite à gauche, dire oh ben, finalement, c'est une bonne vague de froid comme les États-Unis en connaissent chaque hiver. Hein. Et le phénomène de submersion marine qu'on voit à New York, ben, c'est quelque chose qui se produit, hein, c'est les vagues de froid, les tempêtes de nord-est, comme on dit là-bas, hein, les north-easter, et qui peuvent produire ces fameuses submersions marines. Alors évidemment, dans le film, ça, la vague, elle est imposante, mais Manhattan, qui est située au niveau de la mer, est exposée à ce risque-là de façon tout à fait réelle.
Donc si je résume... Le jour d'après, c'est plausible, c'est une théorie plausible qui pourrait même se passer à Manhattan directement.
Oui, oui.
Mais peut-être pas en deux heures de temps.
Non, voilà. Non. C'est... Et puis l'intensité du phénomène, oui, c'est quand même très, très fantaisiste. Hein, mais le fond de l'histoire, on a des choses tout à fait... disons que ça repose sur des théories scientifiques.
Est-ce que, du coup, pour en revenir à cette question de temporalité, est-ce que ce genre de phénomène, mais des phénomènes aussi qu'on pourrait voir, par exemple, dans Flood, dans la grande inondation, on voit jamais arriver la catastrophe? Est-ce que ce serait plausible? Enfin, j'imagine quand même qu'avant une telle catastrophe, on va avoir des changements climatiques sur un temps long, avec un réchauffement, des aléas climatiques réguliers, comme on peut le connaître en ce moment, non ?
Alors, dans le cas de Flood, ce qu'il faut bien signaler déjà, c'est que parmi tous les films qu'on a référencés dans l'article, c'est le plus sérieux de tous par rapport à la façon dont il est traité. Bon, en dehors de... Après, bon, pour que ça fasse pas trop documentaire, il y a, comme dans tous les autres films, les histoires de famille très classiques, les crises d'adolescence des uns et des autres. Enfin bon, ça c'est bon, c'est histoire de faire un peu sensible. Hein. Mais dans le cas de Flood, la tempête qui provoque la submersion de Londres, on le voit au début du film, les météorologues l'ont bien vu arriver. Après, le problème, c'est que c'est un problème qui subsiste encore dans la météorologie actuelle, quoi. C'est-à-dire que les trajectoires des dépressions, on les connaît maintenant relativement bien, mais un petit décalage imprévu peut éventuellement provoquer la catastrophe qui se produit dans ce film et qui est inspirée d'un phénomène qui s'est déjà produit en 1953. Hein, donc ça, c'est plausible aussi. Hein, le fait de ne pas prévoir au kilomètre près la trajectoire d'une dépression, c'est quand même pas une science tout à fait exacte.
Hein. Bien sûr. Il y a aussi d'autres problèmes, c'est par exemple les scientifiques qui sont peut-être pas assez écoutés. On va écouter un extrait d'un film qui est sorti il y a pas longtemps, en 2022. Il s'appelle Don't Look Up.
Excusez-moi, vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair ? On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite.
D'accord.
Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici. Vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles.
C'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve.
Peut-être que la destruction de l'intégralité de notre planète, c'est pas censé être fun. Peut-être même que c'est une information plutôt terrifiante.
Dans Don't Look Up, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est des chercheurs qui vont sur un plateau télé pour annoncer la fin du monde. Les présentateurs, eux, en rigolent. Ils en font des blagues, des vannes. Ils sont même allés rencontrer des politiques. Pareil, dans le film, on voit que les politiques demandent un petit peu à tout le monde de se taire, etc. Est-ce que vous, en tant que chercheur, en tant que climatologue, même, vous vous trouvez que le gouvernement et même les journalistes donnent assez de crédit à vos recherches? Je pense notamment au GIEC hein, qui informe sans arrêt des changements climatiques, etc. etc.
Si je peux défendre, on peut dire être l'avocat du diable.
Allons-y.
Voilà. Du point de vue des autorités, tout ce qui est autorité, que ce soit gouvernement, élus, régionaux, locaux, même si on peut adhérer à la. Enfin, être tout à fait conscient de ce qui va se passer, il y a un autre problème qui est celui de la crainte de générer un mouvement de panique. Alors, il y a deux choses différentes là-dedans, soit la panique, ou alors, moi, ce qui me fait presque encore plus peur, c'est que à force de vouloir trop faire peur aux gens, les gens, ils s'en foutent aussi. J'ai l'impression que on est en train d'être un peu dans ce cas-là. Moi, c'est ça que je n'aime pas tellement, c'est que à force de matraquer le public avec des images de catastrophe, en disant ça y est, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez? Les gens ils se disent, s'il n'y a plus rien à faire, tant pis. Hein.
Gueule de chercheur. Gueule de chercheur.
Vous avez coécrit, du coup, on l'a déjà dit, hein, mais vous avez coécrit avec Benjamin Paul, Pierre Pousset, Brice Lallemand et Nicolas Jacob Rousseau un article nommé « Le climat dans les films catastrophes dystopiques et post-apocalyptiques ». Dans cet article, vous avez abordé 55 films, c'est énorme. Comment vous avez choisi ces films?
Eh bien, j'ai d'abord choisi des films que j'ai vus.
C'est mieux.
Et voilà. Donc, il n'y en avait pas 55, parce qu'il y en a parmi les... Moi, disons que j'en ai vu la majorité d'entre eux, dont les sujets me semblaient intéressants à traiter. Et puis, les collègues en ont rajouté chacun par-ci, par-là. Donc, au total, on arrive à 55 films, incluant d'ailleurs des épisodes de séries télé aussi. Hein. Finalement, on a abouti à un plan où on a d'abord des films où le climat ou la météorologie, pour les événements ponctuels, est vraiment au cœur du sujet. Et puis, petit à petit, on dévie vers des films où le climat n'est plus le cœur du sujet, mais sert de décor.
Et d'ailleurs, c'était quoi la méthodologie pour analyser ces films quand vous les regardiez? Qu'est-ce que vous analysiez? Qu'est-ce que vous regardiez?
Je regardais, c'est très très binaire, hein, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Démêler le vrai du faux dans chacun de ces films. Alors évidemment, Brice Lallemand, là, donc, qui gère un ciné-club, il m'a dit... Benjamin Paul et moi qui étions sur la même longueur d'onde là-dessus, il me dit, il faut surtout pas vous demander de faire des critiques de films parce que ça va pas du tout, quoi. Parce que faire un commentaire de film dans lequel on dit ça de toute façon c'est complètement faux, ça peut pas passer. Mais pour un article dans une revue scientifique, par contre, là oui. Selon les films, on a des films qui collent à la réalité comme Flood, qui lui est la grande inondation, donc qui reste très très proche du scénario réaliste du début à la fin. Puis on en a d'autres évidemment, où là on a des choses... Alors je pense surtout les films d'éruption solaire, où on sait qu'une éruption solaire, ça n'a pas ces impacts-là avec une terre complètement brûlée. Non, c'est pas ça.
D'ailleurs, depuis quand le cinéma s'est emparé de ces questions de climat, de catastrophe climatique? Est-ce que vous savez le premier film ou au moins les premiers films, l'année des premiers films?
On est remonté à 1960. Le climat n'est pas du tout le sujet du film, mais il est question de géo-ingénierie à un moment donné dans ce film. C'est la machine à explorer le temps.
C'est un début de quelque chose qui tend à ensuite peut-être le cinéma qu'on connaît.
C'est à partir des années 70 qu'on commence à voir des films qui abordent les préoccupations climatiques un peu plus inquiétantes. Petit à petit, Hein, à partir des années 70, bon, on commence à voir l'ambiance caniculaire dans Soleil Vert. Hein, c'est un film de 1973. Et puis, au fil du temps, au fur et à mesure qu'on commence à parler du réchauffement, on voit apparaître petit à petit des films qui montrent le problème de plus en plus, violemment. Hein. Dans le milieu des années 90, là, il y en a un qui me vient en tête. C'est pas du tout réaliste, mais c'est fondé là-dessus. C'est Waterworld. Hein. Bon, alors là. La Terre devient une planète océan. Bon, on sait qu'évidemment, même si toutes les calottes glaciaires fondaient, on n'aboutirait pas à ça. Hein. Les années 2000, là, ça, on peut dire que ça explose, ce genre de film. Là, de façon encore plus violente.
Et vous, dernièrement, quel film sur les catastrophes climatiques se rapproche le plus, enfin, quel film vous avez regardé, hein, et qui se rapproche le plus de la réalité de ce qui pourrait se passer dans un avenir plus ou moins proche, d'ailleurs?
Ça dépend de... ça dépend de quel style, c'est-à-dire dans les films catastrophes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus sérieux, c'est la grande inondation. Maintenant, dans les films dystopiques et post-apocalyptiques, alors on m'a déjà posé la question je réponds toujours la même chose, c'est qu'en fait, il faut plutôt voir ce qui est le plus vraisemblable, c'est un scénario multifacteur, c'est-à-dire où le climat n'est pas le seul en cause. Il y a eu en 1972 ce qu'on a appelé le rapport Meadows, publié par un groupe de scientifiques, le Club de Rome, et qui avait alerté le monde entier sur la croissance effrénée à cette époque. Parmi ces problèmes, bien sûr, la croissance effrénée, on pense à la surexploitation des ressources, il y avait la surpopulation, le problème du climat qui commence à pointer du doigt, enfin, qu'on commence à pointer du doigt à ce moment-là. Donc, la surexploitation des ressources, le problème démographique et le climat, ces trois problèmes-là, ils sont d'actualité. À mon avis, c'est plutôt la conjonction des trois problèmes qu'il faut prendre
en compte.
Oui, voilà.
Désormais,
oui.
Un bon film catastrophe, en fait, c'est la conjonction de ces trois phénomènes. C'est pas juste une catastrophe climatique.
Non.
On parlait de crise démographique. Récemment, en début du mois de septembre 2023, sur une chaîne de télévision, l'ex-président Nicolas Sarkozy a dit ça.
Si le climat avait été régulé, ça se serait depuis bien longtemps. Donc, il faut...
Pas de dérèglement aujourd'hui ?
Le climat a toujours été dérégulé.
Quand
vous dites déréglé, ça veut dire que vous pensez que le climat est réglé. Hein ? Il y a eu à trois ou quatre reprises dans l'histoire de l'humanité la quasi-totalité du vivant qui a été détruit.
Alors, il s'énerve, hein, déréglé. Oui. Est-ce que le climat a toujours été dérégulé ou déréglé, comme il le dit ?
Alors, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est un petit peu raccourci, quoi. Donc, faut voir. C'est un problème de pas de temps. C'est-à-dire, à un pas de temps de 10 000 ans, on a un climat très, très stable jusqu'à maintenant. Mais par contre, si on regarde dans le détail, on a eu des fluctuations climatiques, par exemple ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, cette période assez perturbée, fraîche et humide sur l'hémisphère nord entre 1300 et 1850. Évidemment, les gens qui ont vécu à l'époque se sont pas rendus compte qu'ils étaient dans un petit âge glaciaire. Pour eux, c'était le climat qu'ils vivaient à leur époque. Hein. Alors... par contre, il faut bien dire que quand on parle de dérèglement climatique, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Je veux dire, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Il y a bien un problème, surtout avec les phénomènes extrêmes. Alors bon, qui ne sont pas forcément plus fréquents, enfin du moins pour l'instant, on n'a pas de, comme j'ai dit, on n'a pas assez de recul pour savoir s'ils sont plus fréquents ou pas, mais peut-être un risque pour que ces phénomènes soient plus violents, dévastateurs et meurtriers aussi. Ces phénomènes-là, ils ne sont peut-être pas plus fréquents, mais
ils sont plus forts.
Ils ont tendance à devenir plus intenses.
Nicolas Sarkozy, au début du mois, sur la même chaîne de télé, et au même moment, il disait ça aussi.
Mais derrière les combats environnementaux, il ne faut pas qu'on nous réserve la vieille soupe d'extrême-gauche contre l'économie de marché. Donc, la vérité de tout ça, c'est que la première source de pollution mondiale, c'est la surpopulation.
Donc, il explique dans cet extrait que le réchauffement climatique, le changement climatique, etc., c'est dû notamment à la surpopulation. Est-ce que, d'après vous, c'est la seule raison de ces changements climatiques, de ces catastrophes climatiques ?
Ben non. Enfin, en tout cas, il dit deux choses là dans ce que vous m'avez fait écouter. La première chose, c'est l'histoire de l'extrême-gauche anti-capitaliste. Alors là, il se trouve qu'il y a quelques jours, il y a eu une interview de Jean Jouzel, hein, qui est membre du GIEC, et qui a dit que le capitalisme était incompatible avec la lutte contre le changement climatique. Alors là, en fait, je suis d'accord avec lui, mais je préfère ne pas
épiloguer dessus.
Non, parce que je n'ai pas les compétences suffisantes pour
donner un avis. Oui.
Voilà. Alors pour la démographie, il faut bien dire ce qui est. S'il y a trop de monde sur Terre, au bout d'un moment, il y a plus de ressources suffisantes. Alors maintenant, le lien avec le climat, là par contre, il n'est pas du tout évident, parce que les pays les plus pollueurs, ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus peuplés. Hein. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, enfin, si ça peut rassurer. D'après des études démographiques faites ces dernières années, la population mondiale devrait atteindre son maximum en 2042 ou 2043, quelque chose comme ça, et baisser après. Donc peut-être que là, tous les problèmes seront réglés.
Peut-être.
Je n'en suis pas sûr.
En parlant de problèmes réglés, est-ce qu'on peut encore stopper le réchauffement climatique ou même les catastrophes qui pourraient découler de ce réchauffement climatique, ou est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que nous ferons face à ce type de catastrophes que prédisent les films ?
Je ne pense pas qu'il soit trop tard, hein. Mais par contre, il n'est jamais trop tard. Mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un temps de réponse. C'est-à-dire, si on décidait du jour au lendemain de prendre les mesures qui s'imposent, le problème, c'est que le temps de réponse, lui, est beaucoup plus lent et le climat continuerait à se réchauffer pendant un petit moment et un petit moment assez long d'ailleurs, et les dérèglements qu'on a observés ces dernières années continueraient à se produire le temps que les effets se fassent sentir.
Mais il y aurait des effets à long terme.
Ah ben sûrement.
Il y aurait sûrement, oui. Des effets. Il y aurait des effets visibles.
Il y aurait des effets, oui. Mais il faudrait les prendre maintenant, quoi.
Et ben, c'est noté. Merci Olivier Planchon, chargé de recherche en climatologie au CNRS. Et pour information, on peut retrouver tous vos travaux sur votre compte ResearchGate. Merci encore et belle nuit européenne des chercheurs.
Eh bien, merci.
Gueule de chercheurs.